La douzième bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans Genèse chapitre 48, à partir du verset 15. Dans ce passage, Israël, c'est-à-dire Jacob, est en train de bénir son fils Joseph et aussi ses petits-fils Éphraïm et Manassé. Lorsque nous lisons, alors je vais commencer un peu plus haut, Genèse chapitre 48, à partir du verset 10, je vais aller rapidement. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse. Ils ne pouvaient plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. » Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. » Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant, « Que Dieu te traite comme Éphraïm et comme Manassé. » Et il mit Éphraïm avant Manassé. » Alors c'est très prophétique ce qui s'est passé ici. Israël sentait ses dernières heures arriver et avant de quitter cette terre, il voulait relâcher la bénédiction sur sa postérité. Il a béni son fils Joseph et il a demandé à Joseph de lui amener ses petits-fils Manassé et Éphraïm. Et la Bible dit que Joseph a placé Manassé à la droite d'Israël et Éphraïm à la gauche d'Israël. Pourquoi? Afin que lorsque Israël va bénir, que la main droite d'Israël puisse aller sur la tête de Manassé et la main gauche d'Israël sur la tête d'Éphraïm. Mais ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit que Israël a mis sa main droite sur Éphraïm et sa main gauche sur Manassé. Et la Bible dit que Joseph n'avait pas apprécié cela. Il voulait déplacer les mains de son père parce qu'il croyait que son père se trompait en faisant cela. Pourquoi? En Israël, il y a le droit d'aînesse. C'est l'aîné qui reçoit la bénédiction. C'est l'aîné qui reçoit l'héritage. La droite est une main qui représente la bénédiction. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Donc la droite représente la main de la bénédiction. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 35, nous voyons dans ce passage que Rachel allait accoucher. Et la Bible dit que Rachel a accouché dans la douleur. Et elle a donné à cet enfant le nom de Ben-Oni, ce qui signifie « fils de ma douleur ». Mais Jacob, le mari de Rachel, a changé le nom de cet enfant. Il a dit « On ne t'appellera pas Ben-Oni, fils de ma douleur, mais tu seras Benjamin ou Benjamin, fils de ma droite, c'est-à-dire de la bénédiction. » Donc la droite représente la bénédiction. Et en tant qu'aîné, c'est Manassé l'aîné. C'est sur Manassé que Israël devrait poser sa main droite. Mais Israël n'a pas posé sa main droite sur Manassé, il a posé sa main droite sur le plus petit, qui est Éphraïm. Et il a mis sa main gauche sur le plus grand, qui est Manassé. En fait, en mettant la main gauche sur Manassé, cela ne signifie pas qu'il était en train de maudire Manassé. Non, Manassé aussi était béni. Mais nous allons comprendre cette bénédiction prophétique que Jacob avait faite, avait donnée à ses petits-enfants. Imaginons, Manassé était à sa droite, Éphraïm à sa gauche. Il lui suffisait tout simplement d'imposer les mains en étendant ses bras sur chacun de ses enfants, la droite sur le fils aîné Manassé et la gauche sur le petit frère Éphraïm. Mais il n'a pas fait cela. Il a mis la droite sur Éphraïm et il a mis la gauche sur Manassé. Rien qu'en regardant cette image, nous voyons que il a croisé ses bras pour les bénir. Et rien qu'en regardant cette image, nous voyons déjà l'image de la croix. C'était une bénédiction prophétique qui voulait montrer par là qu'un jour, le fils aîné de Dieu, Jésus-Christ, sera sur la croix. Mais Dieu a mis sa main gauche sur Jésus-Christ et il a mis sa main droite sur nous qui croyons en lui. C'est nous qui avons reçu la bénédiction et c'est lui, Jésus-Christ, qui a pris toutes nos malédictions. Mais ça ne veut pas dire que Manassé a été maudit. Il a dit, Manassé est béni, lui aussi sera un grand peuple, mais son petit frère Éphraïm sera plus grand que lui. Éphraïm, en hébreu, signifie double, double croissance, double fécondité, double bénédiction, double prospérité. Je prie cette année que tout ce que vous avez toujours fait dans votre vie et qui a toujours été petit, que cette année, que tout ce qui a toujours été petit devienne le plus grand. De la même manière que le plus petit Éphraïm a reçu la main droite, la main de la bénédiction, qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre vous. Tout ce que vous faites de bien, je sais que parfois on fait beaucoup d'efforts pour produire quelque chose de grands résultats, mais en fin de compte, ce ne sont jamais de grands résultats qui sont produits, c'est toujours des petits résultats qui sont produits. Mais cette année, les plus petits résultats deviendront les plus grands. Les plus petits résultats deviendront les plus grands. Si vous faites du commerce, les plus petits bénéfices deviendront les plus grands. Si vous cherchez du travail, vous n'allez plus faire les petits travaux, mais Dieu va vous donner les grands emplois. Tout ce que vous avez toujours désiré et que vous avez toujours reçu en petite taille, cette année, recevez la bénédiction d'Éphraïm. Recevez la bénédiction de la main droite. Que tout ce qui est petit dans votre vie, que tout ce qui doit glorifier le Seigneur, mais qui est petit dans votre vie, devienne le plus grand, dans le nom de Jésus. La 13e bénédiction, nous la trouvons dans Genèse chapitre 49, à son verset 9. Dans ce passage, Jacob est en train de bénir, Jacob ou Israël, est en train de bénir ses 12 fils. Vous savez que Jacob a eu 12 fils, plus une fille qui s'appelle Dina. Mais les 12 fils sont tous devenus les 12 tribus d'Israël. Donc à chaque tribu, il donnait une bénédiction prophétique. Et au verset 9, il a béni la tribu de Juda. Nous savons tous que notre Seigneur Jésus-Christ est sorti de la tribu de Juda. Et nous allons voir ce que Jacob a prophétisé sur la tribu de Juda. Genèse 49, verset 9, la Bible dit: Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le repos et que les peuples lui obéissent. Le verset 9 et le verset 10 parlent précisément de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais attirer notre attention sur le verset 9. Jacob a dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Jésus-Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Et j'aime bien le fait qu'il parle de ployer les genoux. Parce que nous tous qui suivons le lion de la tribu de Juda, une des choses qui nous caractérise, c'est que nous ployons nos genoux en signe de prière. Mais la bénédiction qui nous intéresse dans cette parole, c'est que Jacob a dit, Juda est un jeune lion, tu reviens du carnage, mon fils. Le mot carnage signifie massacre sanglant causant plusieurs victimes. Et Jacob est en train de dire à Juda, tu reviens du carnage. C'est très puissant. C'est-à-dire, tu reviens du massacre, tu reviens de la guerre, ou tu reviendras toujours de la guerre. Tu reviendras toujours des situations difficiles. Tu reviendras toujours des attaques de tes ennemis. Quelles que soient les attaques qui vont tomber sur toi, quelle que soit la force de ces attaques-là, ces attaques ne pourront jamais t'anéantir. Tu reviendras toujours de ces attaques. Si tu vas à la guerre, tu reviendras toujours de la guerre. Tu ne seras pas la victime qui va laisser sa peau, mais tu seras le vainqueur qui reviendra toujours. Tu reviendras du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage, mon fils. Vous savez, dans notre vie de chrétien, nous faisons toujours face à beaucoup d'attaques, à beaucoup de difficultés. Mais avec cette bénédiction, nous devons savoir que quelles que soient les attaques qui viennent contre nous, Dieu nous a dit que nous reviendrons toujours du carnage. Nous sortirons toujours victorieux. Nous sortirons toujours comme des gagnants. Nous sortirons toujours les mains élevées. Ceux qui nous ont enterrés nous reverront encore. C'est impossible que nous puissions baisser les mains. C'est impossible que nous soyons détruits. C'est impossible que nous soyons anéantis. Quelles que soient les attaques, quelle que soit l'ampleur du massacre, nous reviendrons toujours du carnage. Cela me fait penser à Abraham. Genèse 22, Dieu a dit à Abraham, « Je veux que tu sacrifies Isaac pour moi. » La Bible dit que Abraham est parti avec deux serviteurs. Arrivé au pied de la montagne de Moria, Abraham a dit à ses deux serviteurs, « Attendez-nous, l'enfant et moi, nous allons adorer et nous reviendrons. » C'est très puissant comme parole. Parce que Abraham savait qu'il allait au sommet de la montagne pour tuer son fils Isaac. Il devrait dire, nous irons et je reviendrai. Mais il a dit à ses deux serviteurs, nous irons et nous reviendrons. Parce que Abraham savait, comme le dit Hébreux chapitre 11, que même si son fils meurt, Dieu est puissant pour ressusciter les morts. Et pourtant Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Parce que jusqu'à Genèse 22, la Bible n'a pas enregistré de résurrection de mort. Abraham n'a jamais vu Dieu ressusciter un mort. Mais il avait tellement foi en son Dieu qu'il a dit, même si Isaac mourait, Dieu est puissant pour le ressusciter. Nous irons et nous reviendrons. Parole très prophétique. Vous savez, si vous avez la révélation de cette parole, quelles que soient les attaques, quelles que soient les menaces, quelles que soient... Comment dirais-je, ce que l'ennemi vous dit, quelles que soient les situations difficiles qui vont tomber sur vous cette année, vous saurez que vous irez et vous reviendrez. Vous irez et vous reviendrez. Parce que Jacob a dit de Juda, tu reviens du carnage, mon fils. Tu reviens du carnage. Nous sommes ceux qui sont faits pour toujours revenir du carnage. Nous ne sommes pas faits pour être des victimes. Nous sommes faits pour être des vainqueurs. Et nous prenons la victoire dès maintenant dans le nom de Jésus. Sur toute cette année qui s'annonce, nous prophétisons que nous reviendrons toujours du carnage dans le nom de Jésus-Christ. La quatorzième bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans Nombre, chapitre 23, à son verset 23. La Bible dit dans ce passage, « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Mais la bénédiction que je voudrais prononcer sur vous par rapport à ce passage, c'est « L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. » Nous pouvons réinterpréter ce verset et nous l'approprier et confesser ce verset. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma famille. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma famille. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma famille. L'enchantement et la divination, ce sont les pratiques mystiques du diable. L'enchantement et la divination, c'est la sorcellerie. C'est toutes les œuvres que l'ennemi essaye de mettre en œuvre pour, comment dirais-je, pour nous anéantir, pour nous détruire. J'ai remarqué d'ailleurs que souvent, nous qui sommes d'origine africaine, nous sommes obsédés par les sorciers et par la sorcellerie. Mais il y a une bonne nouvelle pour nous, c'est que lorsque nous sommes en Christ Jésus, nous sommes en Christ Jésus. Nous ne sommes pas en nous-mêmes, nous sommes en Christ Jésus. Donc nous sommes dans une position et dans une place où nous sommes protégés. Si nous marchons par la foi, si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, contre toutes ces pratiques mystiques que l'ennemi peut faire contre nous. Parce que le plus souvent, cela diminue notre foi à un point tel que la plupart des chrétiens africains sont plus conscients des sorciers que de Jésus-Christ. C'est un problème qui est grave. Nous n'avons pas à être plus conscients des œuvres des ténèbres que de Jésus-Christ. Nous devons être plus conscients de Jésus-Christ que de la sorcellerie. La divination et l'enchantement parle de sorcellerie, de pratiques mystiques. Tout ce que les gens des ténèbres peuvent essayer de dresser comme arme contre nous. C'est cela l'enchantement et la divination. Et la Bible dit ici, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. C'est toi Jacob. Alléluia. La sorcellerie ne peut rien contre toi. La sorcellerie ne peut rien contre ta famille. Si tu es en Jésus-Christ. Donc c'est une parole qu'il faut confesser. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre mes enfants. L'enchantement ne peut rien contre moi, ni la divination contre ma famille. L'enchantement ne peut rien contre moi, parce que c'est ce que la Bible dit, que l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. C'est toi, Jacob, qui es devenu Israël par la nouvelle naissance. Et la Bible dit que toutes les œuvres des ténèbres ne peuvent rien contre toi. Que cette année soit l'année de la victoire sur la peur des sorciers, sur la peur des œuvres des ténèbres. Et que chacun puisse prendre conscience que Jésus-Christ est le roi des rois. Que Jésus-Christ est plus puissant que les sorciers. Que Jésus-Christ habite en nous. Et que tant que nous ne prendrons pas conscience de cela, nous serons toujours sous les pieds du diable. Mais la première bénédiction, souvenez-vous, Dieu a dit dominer, c'est-à-dire ayez tout sous vos pieds. Le diable doit être sous nos pieds. Mais pour que le diable soit sous nos pieds, il faut que nous soyons plus conscients de Jésus que de lui. Donc, je vous encourage cette année à vaincre cette peur du sorcier, à confesser cette parole qui est une promesse puissante pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre toi, ni la divination contre ta famille. Qu'il en soit ainsi pour cette année, dans le nom de Jésus-Christ. La quinzième bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 1 à son verset 11. C'est la bénédiction que Moïse a donnée au peuple d'Israël. Nous lisons dans ce passage Deutéronome 1 verset 11, Moïse s'adresse au peuple d'Israël et il leur dit « Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. » Alors, c'est une bénédiction qui parle d'augmentation. Moïse dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois plus. Je prie que cette année nouvelle, que durant cette année nouvelle, que vous puissiez expérimenter l'augmentation 1000 fois plus. L'augmentation mille fois plus dans tous vos projets, dans tous vos commerces, dans vos salaires, dans vos revenus, sur votre compte en banque. Si vous êtes pasteur, la bénédiction numérique, que l'Église, votre assemblée, s'augmente mille fois plus. C'est une onction très puissante. Que tout ce que vous obtenez comme revenu, nous avons vu la première fois que Isaac a semé et il a récolté le centuple. Mais cette fois-ci, nous ne parlons plus de la bénédiction centuple. Nous parlons de la bénédiction mille fois plus. Je prie que cette onction se positionne sur la vie de tout un chacun. Recevez par la foi l'onction de l'augmentation mille fois plus. Si vous êtes commerçant, qu'il en soit ainsi pour vos bénéfices mille fois plus. Si, quel que soit ce que vous faites mille fois plus. Si vous êtes pasteur, que votre église s'augmente en nombre mille fois plus. Si vous désirez des enfants, ayez des enfants mille fois plus. Quel que soit ce que vous faites, que votre production produise mille fois plus. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La 16e bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans Deutéronome chapitre 6 à son verset 10. La Bible dit, « L'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantées. » Je trouve cette bénédiction très puissante. Et c'est une bénédiction que j'affectionne personnellement. Parce que vraiment, elle est très puissante. L'Éternel dit que tu posséderas des maisons que tu n'as pas bâties. Des maisons remplies que tu n'as pas remplies. Des puits que tu n'as pas creusés. Et des vignes que tu n'as pas plantées. Alléluia. Merci Seigneur. Je prie que cette année soit l'année de la possession. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelqu'un qui est en train de bâtir une maison quelque part. Vous ne connaissez pas la personne. La personne ne vous connaît pas. Vous ne savez même pas d'où cette personne a été chercher l'argent pour construire cette maison. Mais même cette personne ne sait pas encore que c'est pour vous qu'il est en train de bâtir cette maison. C'est ce que cette bénédiction dit. Vous posséderez des maisons que vous n'avez pas bâties, dans le nom de Jésus. Vous posséderez des maisons remplies que vous n'avez pas remplies, des puits que vous n'avez pas creusés, des vignes que vous n'avez pas plantées. Merci Seigneur. Seigneur, je prie que cette année, nous puissions rentrer dans cet héritage. L'Éternel dit que nous posséderons des maisons que nous n'avons pas bâties. Vous savez, personnellement, le Seigneur m'a révélé que cette année sera l'année de la récolte, l'année de la moisson, l'année de la réalisation de nos rêves, l'année de l'accomplissement, l'année de la plénitude, l'année de la restauration, l'année de la prospérité. Je vais vous ramener à l'histoire de Ruth. Lorsque vous lisez Ruth, chapitre 2, nous savons que Ruth a suivi sa belle-mère Naomi. Et lorsqu'ils sont revenus en Israël, la Bible dit que Ruth est partie chercher du travail. Et elle a trouvé du travail dans un champ qui appartient à un certain Boaz. Dans le champ de Boaz. Mais quel était le travail de Ruth? C'est étrange, c'est étonnant. Parce que Ruth ne cultivait pas la terre. Ruth n'était pas partie pour semer. Ruth avait trouvé un travail et son travail était tout simplement de glaner les épis. Vous savez, glaner veut dire récolter. C'est comme si, vous savez, quelqu'un d'autre a fait le travail et elle, elle est juste arrivée pour prendre les fruits de ce travail. Il y a eu des moments dans votre vie, vous avez beaucoup semé, vous n'avez rien reçu. Mais cette année, dans le nom de Jésus, sera l'année où vous allez glaner les épis. Ça sera l'année où vous allez juste recevoir. Juste recevoir. Vous savez, Il y a un moment dans la vie où on arrive, où Dieu nous donne le repos. Et je crois que ce moment, c'est cette année. Dieu dit cette année, tu ne vas plus souffrir comme tu as toujours souffert. Cette année, tu ne seras plus dans le manque comme tu l'as toujours été. Mais cette année, je viendrai te bénir. La bénédiction viendra t'inonder dans ta maison où tu es. Et quand tu vas te lever, le moindre effort que tu feras ne sera même pas pour semer, mais ça sera pour récolter. Juste pour récolter. Juste pour glaner. Parce que tu vas recevoir des maisons que tu n'as pas bâties. Tu vas recevoir des puits que tu n'as pas creusés. Des plantations et des vignes que tu n'as pas plantées. Parce que c'est le temps de la bénédiction. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La 17e bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans le livre de Deutéronome, à son chapitre 28, au verset 13. La Bible dit dans ce passage, « L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui. » La Bible dit, « Tu seras toujours la tête et tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. » Qu'il en soit ainsi pour vous cette année. Merci Seigneur. Merci de ce que Seigneur tu fasses de nous la tête et non la queue. Que nous soyons toujours les éclaireurs. Que nous soyons ceux qui vont en premier. Ceux qui sont toujours là pour faire les premiers pas de la foi. Ceux qui sont toujours là pour entreprendre les premiers. Ceux qui sont toujours les premiers en toutes choses. Merci de ce que tu nous mets toujours en haut. Que nous ne soyons jamais en bas, Seigneur. Que ton onction de faveur et de grâce soit toujours sur nous pendant cette année. Seigneur, merci. C'est une bénédiction puissante. Et je prie que cette bénédiction soit positionnée sur votre vie. Que vous soyez toujours la tête et que vous ne soyez jamais la queue. Que vous soyez toujours en haut et que vous ne soyez jamais en bas. Toujours en haut. Lorsqu'on est en haut, la Bible dit que nous sommes placés en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est assis en haut. Vous savez, quand vous considérez toutes choses d'en haut, toutes ces choses deviennent petites et sont sous vos pieds. La Bible dit, nous sommes en Christ. Notre position spirituelle, c'est que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Lorsque nous considérons nos difficultés à partir des lieux célestes, nous ne les voyons même pas, ces difficultés, parce qu'elles deviennent tellement petites. Lorsqu'on considère la distance qu'il y a entre le ciel et la terre. La Bible dit, nous serons toujours en haut. Spirituellement, ça veut dire que nous prendrons toujours conscience que nous sommes en Christ. Et quand nous prendrons conscience que nous sommes vraiment en Christ, et que Christ est positionné en haut, à la droite du Père, alors nous serons toujours les premiers, et nous ne serons jamais les derniers. Que cette année soit l'année où nous soyons toujours les premiers. L'année où nous sommes plus conscients que nous sommes les enfants d'en haut, et non les enfants d'en bas. Des enfants appelés à la victoire permanente et au triomphe permanent, quelle que soit la situation, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La 18e bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans le livre de Josué, à son chapitre 5, à partir du verset 13. La Bible dit dans ce passage, « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu d'un autre ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais je suis le capitaine de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le capitaine de l'armée de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. Il y a plusieurs révélations dans ce passage, notamment la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce capitaine de l'armée de l'Éternel qui s'est révélé à Josué, c'est Christ. C'est une manifestation de Christ. Avant que nous ne le connaissions sous le nom de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, vous assistez à plusieurs manifestations de Christ. Une de ces manifestations, nous le voyons comme l'ange de l'Éternel. Dans d'autres manifestations, nous le voyons de plusieurs manières. Mais ici, il est le capitaine de l'armée de l'Éternel. Et pourquoi je parle de la divinité de Jésus-Christ? C'est parce que quand le capitaine de l'armée de l'Éternel s'est révélé à Josué, il a dit à Josué ce que l'Éternel a dit à Moïse. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, dans Exode chapitre 3, il lui a dit, le lieu sur lequel tu te tiens est saint, donc enlève tes souliers de tes pieds. Il n'y a que Dieu seul qui puisse parler ainsi. Donc nous voyons ici la manifestation de Christ. Mais là n'est pas le point central de la bénédiction que nous devons recevoir. C'est que Josué avait un souci particulier. Il devrait rencontrer, il devrait affronter Jéricho et prendre la ville de Jéricho. Jéricho était comme une immense barrière devant Josué. Josué certainement était très soucieux. Certainement, il était en train de tourner en rond, en train de se poser des questions. Comment pourrions-nous prendre cette ville de Jéricho? Et tout à coup, il a vu le capitaine de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, qui s'est présenté à lui. Et vous allez remarquer dans le chapitre numéro 6 de Josué, que après avoir rencontré le capitaine de l'armée de l'Éternel, Josué a pu prendre Jéricho, lui et toute son armée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en face de ta montagne, en face de ta barrière, en face de ta difficulté, la seule chose qu'il faut que tu puisses rechercher, c'est la visitation du capitaine de l'armée de l'Éternel. Parce que si le capitaine de l'armée de l'Éternel, Jésus-Christ, se révèle à toi, la montagne va fondre. La montagne va fondre. Et j'ai la foi que cette année, toutes les montagnes vont fondre dans notre vie. Toutes les montagnes vont fondre. Alors je prie dans le nom de Jésus. Seigneur, que cette année soit l'année de la visitation du capitaine de l'armée de l'Éternel. Que cette année soit l'année de la visitation du Saint-Esprit. De l'onction qui brise le joug. L'onction qui détruit les barrières. L'onction qui nous fasse prendre notre Jéricho. Afin que nous puissions marcher victorieusement dans les promesses. Dans notre Canaan. Dans notre héritage que tu as réservé pour nous. Donc, ne soyez pas déprimés, ne soyez pas déçus, ne vous découragez pas en face de votre montagne. Ne considérez même pas la montagne, mais recherchez la visitation du capitaine de l'armée de l'Éternel. Recherchez la présence de l'Éternel. Que cette année soit l'année de la présence de l'Éternel. Pas seulement l'année de la présence de l'Éternel, mais que toute notre vie nous puissions expérimenter la présence de l'Éternel, du capitaine de l'armée de l'Éternel qui nous conduira toujours de victoire en victoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La 19e bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans le livre de Juges, à son chapitre 6. Alors Juges, chapitre 6, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Va avec cette force que tu as. » Lorsque vous lisez le livre de Juges, vous y voyez l'appel que l'Éternel a mis sur la vie de Gédéon. Dieu a appelé Gédéon pour délivrer Israël. Mais face à l'appel de Dieu, Gédéon trouvait des excuses. Il dit à l'Éternel, « Je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. » Alors que l'Éternel était en train de lui dire de délivrer son peuple. Vous savez, le plus souvent, nous ne prenons pas conscience de la force qui est en nous. Nous prenons conscience des conditions dans lesquelles nous nous trouvons. Mais ce ne sont pas les conditions qui déterminent qui nous sommes. Mais c'est ce que Dieu a mis en nous qui détermine qui nous sommes. Dieu a encouragé Gédéon dans ce passage. D'une manière de lui dire, ne regarde pas ta condition. Que tu sois sorti d'une famille pauvre, que tu sois le plus petit, que tu n'aies personne, que personne ne t'aime. Toutes ces raisons ne sont pas une raison pour te déconsidérer. Dieu ne te regarde pas comme tu es. Gédéon se regardait comme le plus petit et le plus pauvre, mais Dieu le regardait comme un vaillant héros. Et Dieu lui dit, vaillant héros, va avec cette force que tu as. Il y a une force en toi. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons et demandons, en accord avec la puissance qui agit en nous. Cette puissance, c'est Jésus qui est en toi. C'est le Saint-Esprit qui est en toi. En face de ta situation, sache que tu n'es pas seul et que tu peux aller avec cette force qui est en toi. La prière de bénédiction pour cette année, c'est que cette année, dans toutes nos entreprises, devant tous les défis, que tous nous puissions aller avec cette force que nous avons. Et cette force que nous avons s'appelle Jésus qui habite en nous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La 20e bénédiction que je voudrais vous donner, je l'appelle la bénédiction d'Esther. Nous trouvons cette bénédiction dans Esther chapitre 2, à son verset 15. La Bible dit, « Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abihail, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Égaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale, le 10e mois qui est le mois de Tébeth, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. » Alors j'appelle cela la faveur d'Esther, l'onction de la faveur et de la grâce. Vous savez, le roi Assuérus voulait se marier et on a fait promener devant Assuérus pratiquement toutes les jeunes filles de son royaume, pratiquement des milliers de jeunes filles. Mais sur ces milliers de jeunes filles, Esther a été la seule qui a été choisie par le roi Assuérus. Pourquoi? Parce que Esther avait l'onction de la grâce, la faveur spéciale sur elle. Et je prie que cette année, que nous puissions tous expérimenter la bénédiction d'Esther. Lorsque je pense à Esther, je pense par exemple à ceux qui, pendant cette année, vont faire plusieurs démarches. Peut-être des démarches pour chercher du travail, où tu seras obligé de faire ton CV pour envoyer dans cette compagnie. Cette compagnie va recevoir peut-être des milliers de CV. Celui qui engage les gens va étaler tous les CV sur une table. Il va peut-être même donner dos à la table. Il va juste tendre sa main pour prendre un seul CV et ce CV sera le tien. Ce CV sera le tien. C'est ça la faveur d'Esther. Que cette année soit l'année où nous serons choisis. Partout où nous irons, dans le nom de Jésus, que cette faveur se positionne sur nous. Que ce soit toujours nous qui soyons choisis. Parce que la grâce de l'Éternel est sur toi. Parce que la faveur de Dieu t'environne. Là où tu mettras tes pas, même au milieu de 1 million de personnes, tu feras la différence. Là où tu mettras tes pas, même au milieu de 1 million de personnes, tous les yeux vont se tourner vers toi. Non pas pour que tu tombes dans l'orgueil, mais parce que la main de Dieu est sur toi. C'est cette main qui était sur Esther et elle a été la seule qui a été choisie parmi des milliers. Que cette année, nous soyons les seuls à être choisis parmi les milliers. Seigneur, je prie pour la bénédiction d'Esther, sur la vie de tes enfants, surtout sur les demandes de travail, pour tous ceux qui vont faire des démarches spéciales cette année, que l'onction, la faveur, la bénédiction d'Esther soit positionnée sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La 21e et dernière bénédiction que je voudrais vous donner, nous la trouvons dans le psaume 121. Le psaume 121 dit, « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. » L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Que cette année, tout au long de cette année, et même au-delà de cette année, tout au long de notre vie, que l'Éternel soit notre gardien. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il nous garde, en sorte que la nuit, rien ne peut nous arriver. Et le jour, rien de mal non plus ne peut nous arriver. Je prie que le Seigneur soit notre gardien. Que ce soit la présence de l'Éternel, la présence permanente de l'Éternel, qui nous accompagne partout où nous irons, afin que partout où nous irons, que nous puissions expérimenter. La Bible dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Que chaque jour soit un jour dans les parvis de notre Dieu. Que sa présence et sa faveur nous environnent, nous et notre famille. Que sa grâce ne manque pas dans nos maisons. Que sa face continue toujours de luire sur chacun d'entre nous et que sa main soit toujours sur vous, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous remercie de votre attention. Je suis certain que vous avez reçu ces bénédictions par la foi. C'est très important que vous puissiez mettre votre foi dans la parole de Dieu, car c'est par le canal de votre foi que cette parole va devenir une réalité dans votre vie. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous vous dites, comment pourrais-je faire pour pouvoir posséder toutes ces bénédictions, pour que ces bénédictions deviennent une réalité dans ma vie? Alors ce que je peux vous dire, c'est que pour être béni, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Peut-être que vous n'êtes pas encore chrétien. La meilleure façon d'avoir accès aux bénédictions de l'Éternel, c'est de faire cette prière avec moi. Si vous voulez bien répéter après moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort et ressuscité pour moi. Je te reçois aujourd'hui dans ma vie, comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je quitte le royaume des ténèbres et je rentre dans le royaume de la lumière. Positionne toutes tes bénédictions dans ma vie. Marche avec moi. Montre-moi ta face. Parle-moi. Conduis-moi. Qu'à partir d'aujourd'hui, je ne sois plus le même et que désormais, je marche tout le temps avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Si vous avez aimé ce message et que vous aimeriez recevoir d'autres enseignements de la vie abondante, contactez-nous à l'adresse qui apparaît maintenant sur l'écran. Que Dieu vous bénisse.